Chapitre 10 Barrière franchie. La suite de salons ouvrant l'un sur l'autre à la maison du parc formait un brillant ensemble de lumière et de fleurs, embelli par la présence d'une élégante jeunesse accompagnée de parents et de chaperons. Le point le plus animé était la longue salle où l'on dansait au son joyeux du piano. La bibliothèque, qui était à l'une des extrémités, avait un éclairage plus sobre et plus sérieux, voilé par des abat-jours, et était consacré aux tables de jeu. Et à l'extrémité opposée était un joli petit salon auquel attenait une serre servant de fraîche retraite momentanée. Lucy avait quitté le deuil pour la première fois, et avec sa gracieuse tournure svelte, rehaussée d'une abondance de crêpes blancs, était reconnue comme la reine de la soirée. C'était une des réunions simples des demoiselles Guest, qui n'avait invité personne d'une aristocratie plus relevée que celle de St. Hawks, et avait généreusement étendu leurs invitations à tout ce qui était distingué dans le commerce ou dans l'industrie. Maggie refusa d'abord de danser, disant qu'elle avait oublié toutes les figures. Il y avait tant d'années écoulées depuis qu'elle avait dansé à sa pension, et elle était heureuse d'avoir cette excuse, car il est pénible de danser quand le cœur est oppressé. Mais enfin la musique produisit son effet accoutumé sur la jeunesse, et le désir lui en vint, quoique ce fût l'horrible jeune Tory qui s'approcha une seconde fois pour l'engager. Elle l'avertit qu'elle ne pouvait pas se hasarder à autre chose qu'à une contredanse. Mais il lui dit naturellement qu'il était heureux d'attendre cette haute félicité, voulant de bonne foi lui faire un compliment, en l'assurant que c'était un grand ennui qu'elle ne sût pas danser. Il aurait tellement aimé à être son cavalier. Mais enfin arriva le tour de cette bonne vieille danse qui renferme le moins d'occasion de vanité et le plus de gaieté, et Maggie oublia complètement sa vie de chagrin dans la jouissance enfantine de cette mesure à moitié rustique qui semblait bannir la prétentieuse étiquette. Elle était tout à fait bien disposée à l'égard du jeune Tory, tandis qu'il la conduisait par la main en descendant et remontant la haie des danseurs. Ses yeux et ses joues avaient ce feu de la joie juvénile qui s'enflamme dès qu'il peut rencontrer le moindre souffle pour l'activer, et son simple costume noir, orné de dentelles, semblait la sombre monture d'un joyau. Stephen ne lui avait pas encore demandé à danser. Il ne lui avait pas offert plus que le salut d'usage en passant. Depuis la veille, l'image de Maggie, qui faisait perpétuellement partie de son sentiment intime, avait été à moitié cachée par celle de Philip Wakeham, qui venait l'obscurcir de son ombre. Il y avait quelque attachement entre elle et Philip, tout au moins il y en avait un du côté de son ami, ce qui le lui faisait considérer comme engagé. C'était donc là, pensait Stephen, encore une autre exigence d'honneur qui lui imposait l'obligation de résister à cet entraînement qui menaçait constamment de le subjuguer. Il se disait cela, et cependant il avait une ou deux fois éprouvé contre l'interposition de cette image de Philip une résistance sauvage et un frémissement répulsif qui était comme un attrait nouveau pour s'élancer vers Maggie et la réclamer pour lui-même. Toutefois, ce soir-là, il avait fait ce qu'il avait compté faire. Il s'était tenu loin d'elle, la regardant à peine et se montrant gaiement assidu auprès de Lucy. Mais maintenant, ses yeux dévoraient Maggie. Il se sentait disposé à chasser le jeune Tory de la danse et à prendre sa place. Puis il souhaitait en voir la fin pour se séparer de sa danseuse. L'espérance de pouvoir lui aussi inviter Maggie et aussi tenir aussi longtemps sa main dans la sienne commençait à le dominer comme une soif ardente. Maintenant leurs mains se rencontrèrent pendant la danse dont la figure finale les avait approchées, quoiqu'ils fussent d'abord placés loin de l'autre. Stephen sut à peine ce qui se passait autour de lui ou comment il remplissait les devoirs de la politesse, jusqu'à ce qu'il se sentît libre et qu'il vit Maggie assise de nouveau seule à l'autre bout de la salle. Il s'achemina vers elle en circulant autour des couples qui se plaçaient pour la valse, et quand Maggie reconnut qu'elle était la personne qu'il cherchait, elle sentit, malgré tous les plans formés précédemment, une rayonnante joie au cœur. Ses yeux et ses joues étaient encore animés par son innocent enthousiasme pour la danse. Tout son être était disposé au plaisir et à la tendresse. Même les peines à venir ne pouvaient lui sembler trop amères. Elle était prête à les accueillir comme faisant partie de sa vie, et la vie en ce moment lui donnait un vif sentiment d'existence qui vibrait au-dessus du plaisir ou de la peine. Pendant cette dernière soirée, elle pouvait s'abandonner sans contrainte à l'entraînement du présent, en laissant derrière elle ses inquiétantes pensées rongeurs du passé et de l'avenir. « On va de nouveau valser, » dit Stephen, se penchant pour lui parler, avec ce regard et ce ton de tendresse soumise auxquels les rêves de la jeunesse se complaisent, alors que de douces voix plaintives murmurent sous les ombrages. De tels regards et de tels accents portent le souffle de la poésie avec eux, même dans un salon étourdissant de lumière et de galanterie. On va de nouveau valser. C'est à donner le vertige, rien que de voir cela, et la salle est bien chaude. Nous promènerons-nous un peu ? Il lui prit la main qu'il plaça sous son bras, et ils allèrent dans le petit salon, où les tables étaient chargées de gravures, pour l'amusement des visiteurs qui n'avaient nulle envie de les regarder. Il n'y avait personne dans ce moment. Ils se rendirent dans la serre. Comme ces arbres et ces fleurs paraissent fantastiques et peu réels, éclairés par ces lumières, dit Maggie à voix basse. Ils ont l'air d'appartenir à un pays enchanté et de ne jamais devoir se faner. Il semble que ces fleurs soient faites de pierreries. Elle regardait le gradin de géranium en parlant. Stephen ne fit point de réponse. Il la contemplait. Un sublime poète ne fait-il pas une seule chose de la lumière et du son, appelant l'obscurité muette et la lumière éloquente? Il y avait quelque chose d'étrangement puissant dans l'éclat du long regard de Stephen, puisqu'il força Maggie à se retourner vers lui et à lever les yeux pour le rencontrer, lentement, comme une fleur se tourne vers les rayons lumineux. Il cheminait légèrement sans s'apercevoir qu'il marchait, sans sentir autre chose que la puissance de ce long et sérieux regard mutuel, qui a la solennité appartenant à toute passion humaine. Cette pensée dominante qu'ils devaient et voulaient renoncer l'un à l'autre rendait plus intense le ravissement de cet aveu tacite. Quand ils eurent atteint l'extrémité de la serre, ils furent obligés de s'arrêter et de se retourner. Ce changement fit naître une nouvelle disposition chez Maggie. Elle rougit profondément, détourna la tête, retira son bras de dessus de celui de Stephen et s'approcha de quelques fleurs pour en respirer le parfum. Stephen, toujours pâle, resta immobile. « Oh, puis-je prendre cette rose ?» dit Maggie, faisant un grand effort pour parler et pour se distraire de la sensation brûlante de son irréparable aveu muet. « Je crois que je suis bien coupable à l'égard des roses. J'aime à les cueillir et à en respirer le parfum aussi longtemps qu'il existe. » Stephen restait muet. Il était incapable de formuler une phrase. Maggie éleva le bras vers cette belle rose à demi épanouie qui avait attiré ses regards. Qui n'a pas admiré la beauté d'un bras de femme, les grâces enchanteresses que déploie un coude à fossette et toutes les courbes se dessinant finement jusqu'au poignet délicat, avec une moelleuse fermeté. Un bras de femme toucha l'âme d'un grand sculpteur il y a 2000 ans, au point que la reproduction en marbre que nous envoyons au Parthénon, pressant amoureusement un torse privé de tête, nous émeut encore. Tel était le bras de Maggie, et la vie le colorait. Un fol entraînement s'empara de Stephen. Il s'élança sur ce bras, qu'il couvrit de baisers en saisissant le poignet. Mais aussitôt Maggie le retira violemment et regarda l'audacieux d'un air courroucé comme une déesse offensée, toute frémissante de rage et d'indignation. « Comment osez-vous ? » Elle parlait d'une voix profondément agitée et à demi suffoquée. « Quel droit vous ai-je donné de m'insulter ?» Elle s'éloigna précipitamment de lui, rentra dans la chambre voisine et se jeta sur le sofa, haletante et tremblante. Une horrible punition la frappait pour la faute de s'être accordé cet instant d'un bonheur qui était une tromperie à l'égard de Lucy, de Philippe, à l'égard du meilleur de son âme. Ce bonheur momentané était souillé d'une tache, d'une lèpre. Stephen la respectait moins que Lucy. Quant à Stephen, il s'appuyait contre la balustrade de la serre, pris de vertige par le conflit de ses passions, l'amour, la rage, le désespoir. Désespoir de son manque d'empire sur lui-même et désespoir de ce qu'il avait offensé Maggie. Ce dernier sentiment l'emporta sur tout autre. Être près d'elle et implorer son pardon, était la seule chose qu'il eut la force de vouloir. Elle n'était assise que depuis peu de minutes quand il la suivit et se tint humblement devant elle. Mais son amère indignation à elle n'était pas encore épuisée. « Laissez-moi seul, je vous prie, » dit-elle, avec une hautaine impétuosité, « et évitez-moi à l'avenir. » Stephen s'éloigna et se promena de long en large à l'extrémité de la chambre. L'affreuse obligation de retourner dans le salon de danse commençait à se faire sentir. Le temps de leur absence avait été si court que lorsqu'il rentra, la valse n'était pas terminée. Maggie aussi ne tarda pas à rentrer. Toute la fierté de sa nature la poussait à l'activité. La faiblesse blâmable qui avait permis que sa dignité de femme fût offensée portait au moins son propre remède avec elle. Les pensées et les tentations qu'avait amenées le dernier mois seraient toutes reléguées dans le secret de son cœur. Rien ne pourrait plus la tenter maintenant. Le devoir serait facile, et tous ses anciens projets de calme régneraient sur elle uniquement. Elle rentra au salon, le visage encore animé, mais avec la confiance d'un empire sur elle-même qui défiait toute émotion. Elle refusa de danser encore, mais parla sans embarras et avec calme à tous ceux qui lui adressèrent la parole. Et quand elles retournèrent ensemble à la maison, elle embrassa ce soir-là Lucy avec un cœur libre, presque heureuse de ce moment douloureux qui l'avait délivrée de la possibilité d'un autre mot ou regard qui pût avoir le cachet de la tromperie envers cette gentille sœur si confiante. Le lendemain matin, Maggie ne partit pas pour les Bassetts d'aussi bonne heure qu'elle l'avait pensé. Sa mère devait l'accompagner dans la voiture, et les occupations du ménage ne pouvaient être promptement terminées par Madame Taleva. Aussi, Maggie, qui s'était hâtée de se préparer, dut s'asseoir au jardin toute prête à partir. Lucy était occupée à la maison à envelopper quelques présents achetés au bazar pour les enfants Moss, et quand on entendit un violent coup de sonnette à la porte, Maggie eut quelque effroi que Lucy ne lui amena Stephen. Ce devait certainement être Stephen. Mais bientôt le visiteur vint seul au jardin et s'assit près d'elle sur une chaise. Ce n'était pas lui. « Nous pouvons justement de cette place apercevoir le sommet des pins d'Écosse, Maggie, » dit Philippe. Ils s'étaient pris mutuellement la main en silence, et Maggie le regarda avec un retour de l'ancien sourire affectionné, plus marqué qu'il ne l'avait vu précédemment. Il se sentit encouragé. « Oui, » dit-elle, « je les regarde souvent, et je désire pouvoir voir encore leur tronc éclairé par le soleil couchant. Mais je ne suis jamais retourné de ce côté qu'une seule fois, en allant au cimetière avec ma mère. « J'y suis allé, j'y vais continuellement, » dit Philippe. « Ce n'est que du passé que je peux vivre. » Un vif souvenir et une vive pitié entraînèrent Maggie à mettre sa main dans celle de Philippe. Il s'était si souvent promené ainsi. « Je me rappelle chaque place, » dit-elle, « surtout celle où vous me racontâtes des choses remarquables, de belles histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. « Vous y retournerez bientôt, n'est-ce pas, Maggie ?» dit Philippe en redevenant timide. « Le moulin sera de nouveau avant peu l'habitation de votre frère. »« Oui, mais je n'y serai pas, » dit Maggie. « J'apprendrai seulement ce bonheur. Je vais repartir. Lucy ne vous l'a pas dit, peut-être ?»« Ainsi, l'avenir ne se reliera jamais au passé, Maggie. Ce livre est tout à fait fermé ?» Les yeux bleus qu'il avait si souvent contemplés avec une suppliante adoration la regardaient maintenant avec un dernier rayon d'espoir, et Maggie le reçut de son regard sincère. « Ce livre ne sera jamais fermé, Philippe, » dit-elle avec une grave tristesse. « Je ne désire aucun avenir qui doive briser le lien du passé. Mais celui qui m'unit à mon frère est l'un des plus forts. Je ne puis rien faire volontairement qui puisse me séparer de lui pour toujours. » Est-ce là l'unique raison qui puisse empêcher que nous nous réunissions à jamais, Maggie ? Dit Philippe, avec la volonté désespérée d'obtenir une réponse décisive. C'est la seule, dit Maggie, avec une calme décision. Et elle le croyait. En ce moment, elle sentait comme si la coupe enchantée eût été brisée sur le sol. La réaction qui lui avait donné ce fier empire sur elle-même n'avait point cessé, et elle regardait l'avenir avec le calme d'un choix libre. Ils restèrent assis, les mains l'une dans l'autre, sans se regarder ni se parler, pendant quelques minutes. Dans l'esprit de Maggie, les premières scènes d'amour, suivies de séparation, étaient plus présentes que le moment actuel, et elle se voyait encore avec Philippe au fond rouge. Philippe pensa qu'il devrait se trouver complètement heureux de cette réponse. Elle était si franche et si claire. Pourquoi ne l'était-il pas tout à fait? La jalousie n'est jamais satisfaite de rien moins que de l'omniscience qui pourrait connaître les replis les plus secrets du cœur.